de lire, émission proposant des textes de théâtre d'auteurs contemporains ou non, proposés par la troupe Atrébat Théâtre. Aujourd'hui,
lecture d'une pièce classique de Molière en un acte intitulée Le médecin volant, lue par
Mickaël,
Chloé
et Franck. Eh bien, Sabine, quel conseil me donneras-tu ?
Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin, et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui. Si vous m'étiez aimé. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte, et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès lors que je vous parle, contrefait la malade. Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de votre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard. L'épouser et le laisser pester tout son saoul avec Villebrequin.
Mais le moyen de trouver si toi un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te l'ai dit franchement, je n'en connais pas un.
Je songe à une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme.
C'est un lourd dos qui gâtera tout, mais il faut s'en servir faute d'autre. Adieu, je vais le chercher. Où diable trouver ce marouf là présent ? Mais le voici tout à propos. Ah, mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire.
Ce que je sais faire, monsieur ? Employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à l'horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire.
Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin.
Moi ? Médecin ? Monsieur ! Je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout. Et par quel bout m'y prendre, bon Dieu ? Ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi.
Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles.
Ah ! Pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car, voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je ?
Chez le bonhomme Gorgibus, voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien...
Hé ! Mon Dieu, monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire. Après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira après le médecin, gare la mort. Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille...
Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté.
C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie mathématique. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire voir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire, et me donner mes licences. Qui sont les 10 pistoles promises. Allez vite m'en chercher un médecin, car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous.
Que diable, si. Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a?
Va-t'en vite. Je vois bien que cette maladie-là reculera bien des noces.
Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrelure, et m'en voilà sevré. Je m'en vais chercher un médecin, pour moi aussi, bien que votre fille, je suis désespéré.
Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile des médecins du monde, un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur, et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade, afin qu'il me guérisse.
Où est-il donc ?
Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà.
Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont, à mon égard, que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers, des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur ? Signor, si. Signor, non. Per omnia, secula, seculorum. Mais encore, voyons un peu.
Eh, mais ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille.
Il m'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'égrotante ?
Oui, là. Sabine, vite, allez acquérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure.
Ah, mais qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant.
Et quoi ? Monsieur, vous l'avalez ?
Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale, parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser.
J'ai bien eu de la peine à la faire pisser.
Que cela ! Voyons bien de quoi. Faites-la pisser copieusement, copieusement ! Si tous les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie.
Voilà tout ce que je peux avoir. Elle ne peut pas pisser davantage.
Quoi ? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui donne une potion pissative. N'y a-t-il pas de moyen de voir la malade ?
Elle est levée, si vous voulez. Je la ferai venir.
Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade ?
Oui, monsieur.
Tant pis. C'est une marque que vous ne portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête, au rein ?
Oui, monsieur.
C'est fort bien. Oui, ce grand médecin au chapitre qu'il a fait la nature des animaux dit « sans belles choses ». Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie et que la bile qui se répand dans le corps nous fait devenir jaune et qu'il n'est rien plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme, que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance.
Vite, une table, du papier, de l'encre.
Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire ?
Est-ce que vous ne le savez point ? Ah ! Je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête et j'ai oublié la moitié.
Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prît un peu l'air. Qu'elle se divertit à la campagne.
Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons, allons visiter les lieux.
J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé, que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Hola, hola, M. Gorgibus, y est-il ?
Monsieur, votre très humble.
Ayant appris la maladie de mademoiselle, votre fille, je vous suis tenu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi.
J'étais là, dedans, avec le plus savant homme.
N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment?
Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et de vous entretenir.
Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur.
Monsieur, avec ce que m'a dit monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'eus la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. Je crois que vous ne le retrouverez jamais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme « Vita brevis, ars longo occasio autem praeceps, experimentum periculosum judicium difficile.
Ficile tantina potabaril combustibus. »
Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique. Eh, je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experientia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ce remède, ni de son devoir. Interdum docta provalet arte malum. Monsieur, j'ai peur de vous être importun. Je prends congé de vous, dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue jusqu'au... J'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisir. Vos heures vous sont précieuses.
Que vous semble cet homme-là? Il sait quelques petites choses, s'il fût demeuré tant soit peu davantage, que j'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Et que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur.
Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle. Je ne l'ai point eu de ses nouvelles. Et je suis fort en peine où je le pourrais rencontrer. Mais bon, le voici. Eh bien, Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu?
Merveille sur merveille. J'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement qui est au bout de leur jardin, tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément.
Ah, que tu me donnes de joie! Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas.
Il faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau et se laisse tromper de la sorte. Ah, ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. Bonjour, monsieur.
Monsieur, votre serviteur. Vous voyez un petit garçon au désespoir.
Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu en cette ville, qui fait des cures admirables?
Oui, je le connais. Il vient de sortir de chez moi.
Je suis son frère. Monsieur, nous sommes gémeaux, et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre.
Je me dédonne du diable si je n'y ai été trompé.
Et comme vous nommez-vous?
Narcisse, monsieur,
pour vous rendre service. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu deux fioles d'essence qui étaient sur le bout de la table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis. Et ne me veut plus jamais voir, tellement que je suis un pauvre garçon, à présent sans appui, sans support, sans aucune connaissance.
Allez, je ferai votre paix.
Je suis de ses amis, et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai d'abord que je le verrai.
Je vous serai bien obligé, monsieur Gorgibus.
Il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin et qu'ils s'abandonnent à la débauche...
Monsieur le médecin, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce.
Qu'y a-t-il, monsieur ?
Est-il question de vous rendre service ?
Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère, qui est tout à fait fâché de...
C'est un coquin, monsieur Gorgibus.
Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en colère.
C'est un ivrogne, monsieur Gorgibus.
Hé, monsieur, vous voulez désespérer ce pauvre garçon ?
Qu'on ne m'en parle plus.
Mais voyez l'impudence de ce coquin-là, de vous aller trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler.
Oh, mon Dieu, monsieur le médecin !
Et faites cela pour l'amour de moi.
Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé, et vous m'en priez avec tant d'insistance que quoi que j'eusse fait serment de ne lui pardonner jamais, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus.
Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle.
Il faut que j'avoue que je n'eus jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que je t'ai d'obligation, que j'ai de joie et que...
Ma foi, vous parlez fort à votre aise. Gorgibus m'a rencontré. Et sans une invention que j'ai trouvée, toute ma mèche était découverte. Mais fuyez-vous-en, le voici.
Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et j'irai le chercher.
Ah ! Monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère.
Ah, mais vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien, je vous réponds qu'il n'est plus fâché.
Ma foi, mais voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais et j'ai bien peur que, s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton ou que par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins au cautère royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer ? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout.
Oui, oui, il en faut encore sortir et faire voir que Sganarelle... Et le roi des fourbes.
Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira.
Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais diable où il s'est caché. Mais le voici. Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, ma satisfaction de l'embrasser.
Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence.
Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne ? Je ne le veux jamais voir. Mais, monsieur, pour l'amour de moi, je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. Voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce qu'il voudrait.
Monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que sans doute, il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde.
Oui, là, je m'en vais lui dire. Monsieur dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé. Vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne pas me refuser et de me donner ce consentement.
Il n'y a rien que je ne fasse pour votre assistance, votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je l'ai traité.
Ah, te voilà, coquin.
Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute.
Il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin ! Va, je t'apprendrai à vivre. Avoir la hardiesse d'importuner M. Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises ! Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin !
Qui diable pensez-vous qui soit chez vous à présent ?
C'est le médecin et Narcisse son frère. Ils avaient quelques différends et ils font leur accord.
Le diable emporte, ils ne sont qu'un.
Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme il baisse la vue. Il voit bien qu'il a failli, le pandard. Ah, l'hypocrite! Comme il fait le bon apôtre.
Monsieur, dites-lui un peu par plaisir qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre.
Oui, là. Monsieur le médecin, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne saurais souffrir auprès de moi. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Montre ! Montre-toi, coquin ! Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Eh bien, vous avez vu cette image de la débauche ?
Ma foi, ils ne sont qu'un, et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble.
Mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser devant moi à la fenêtre. C'est une chose que je refuserai à tout autre qu'à vous. Mais pour vous montrer, je veux tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous, quoique avec peine, et veux auparavant qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Oui, monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné, et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus, que voilà, de faire si bien désormais, que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre, vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé.
Eh bien, ne les voyons pas tous les deux ?
Ah, par ma foi ! Il est sorcier !
Monsieur, voilà la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi, parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas que l'on vit en ma compagnie dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et suis vôtre.
Il faut que j'aille libérer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ce n'a pas été de bien maltraiter.
Monsieur, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la volonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie.
Où pensez-vous que ce soit à présent le médecin ?
Il s'en est allé.
Je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe et joue la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble et qui s'en vont à tous les diables.
Ah ! Que je suis malheureux ! Mais tu seras pendu, fourbe coquin ! Monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre ? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournera à votre confusion et envoyez à tous les diables ce coquin-là, avec Vilebrequin. Mais voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds.
Je vous pardonne et suis heureusement trompé par ce Sganarelle, ayant un si brave gendre.
Allons tous faire noce et boire à la santé de toute la compagnie.
Lecture d'une pièce classique de Molière en un acte intitulée Le médecin volant, lue par
Mickaël,
Chloé
et Franck.